Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir proposé cette présentation. Alors, c'est une présentation sans. Attendez, je démarre le chronomètre parce qu'il ne faut pas que je fasse bien attention. Oui, c'est sans prétention, hein, mais bon, on avait réfléchi ensemble lors du voyage d'études à Chicoutimi. Autour de l'articulation entre lire et écrire dans nos recherches et dans nos collaborations. Donc, l'exposé va être en deux grands points. D'abord lire et puis ensuite écrire. Et chacun de ces deux grands points va être traité en deux éléments. Alors, on partageait des lectures, on en avait beaucoup parlé lors de notre semaine d'études là à Chicoutimi. Il était question de développement professionnel en lien avec les recherches collaboratives et ma foi, vraiment les notions de lecture et d'écriture apparaissaient souvent et régulièrement dans des publications autour de la recherche collaborative ou de l'écriture réflexive. On a cette question de la lecture et de l'écriture. Alors, comment est-ce qu'on lit dans les recherches collaboratives? Mais il est souvent question de partager les lectures. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, on avait eu une présentation au début de la semaine d'études de Pascal Thériault à propos d'une recherche action formation qui concernait le développement de la conscience lexicale chez les jeunes enfants. Et Pascal Thériault, donc la chercheuse de l'équipe, a travaillé en amont avec une conseillère pédagogique. Et ensemble, elle nous expliquait qu'elles avaient, en amont de l'intervention formation-recherche, sélectionné des textes d'appui. Et les textes d'appui, c'est une première sélection, contenaient des articles. Enfin, un article publié par un professionnel qui était adressé à des professionnels de l'enseignement, et puis des albums de jeunesse, puisqu'il était question d'enseignement premier, et puis un article plutôt scientifique. Et à partir de ce corpus qui avait été soumis aux enseignants, eh bien, il y avait eu une discussion collective sur la pertinence d'une référence commune. On voit comment s'opèrent des rencontres entre différentes littératures. Alors, moi, je fais le lien avec ma propre expérience dans deux Léas, le Léa Trace Écrite et le Léa Lycée Professionnel, tous deux situés en Lorraine. Et il se trouve que dans nos lectures, dans les lectures qu'on partage, eh bien, il y a systématiquement trois types de littérature. La littérature institutionnelle, c'est-à-dire la littérature de prescription et un peu d'accompagnement que fréquentent les enseignants dans leur activité ordinaire, mais aussi leurs formateurs. La littérature professionnelle, dans laquelle publient des enseignants, des formateurs, des inspecteurs parfois, enfin voilà, des métiers plus nombreux. Et puis la littérature scientifique, qui appartient plutôt au monde de la recherche a priori, mais à laquelle s'adossent les formateurs, les enseignants, etc. Alors évidemment, ces trois littératures ne sont pas présentes de manière. Pas dans des proportions égales, mais elles ont toutes les trois leur place dans nos travaux. Et ça permet d'avoir une variété de lectures, et cette variété, elle reflète la diversité des acteurs qui sont engagés. Et il me semble que ça, c'est un élément important pour que chacun vienne avec des littératures dans lesquelles il se reconnaît chacun. Alors, je parle de littérature, ce n'est pas la littérature littéraire, hein, on est bien d'accord, hein, texte institutionnel, professionnel, scientifique. Alors, l'idée d'amener des textes en amont, puis de les discuter et puis de s'y référer ensuite, c'est une méthode. Il y a d'autres stratégies qui avaient été évoquées lors de cette semaine d'études. On avait en la personne de Laurent Reynaud, un témoignage du Léa Feder, où il était question de chercheurs qui restituaient des articles et à partir desquels la recherche pouvait se faire. Et donc, il pouvait y avoir un dossier partagé d'articles scientifiques. Ça, c'est aussi une possibilité de nourrir que le chercheur amène des articles scientifiques auxquels les collègues peuvent se référer ou non, hein, mais en tout cas, que chacun puisse partager ses écrits et que les enseignants partagent leur propre littérature, si ça peut être des articles scientifiques ou autres. Et puis, parfois, les chercheurs mettent à disposition des extraits de tel ou tel texte pour des textes qui seraient trop copieux. Alors, ce que je retiens de là avant de passer à la diapo suivante, c'est que en général, on partage des lectures plutôt sélectives et on l'aborde de manière critique dans des discussions. Et puis, ce partage de lecture, ben, à la fois, il est objet de négociations et de controverses, et à la fois, il peut soutenir ces conversations et ces discussions argumentées. On va passer à la suite. Virginie, tu peux nous passer à... Merci beaucoup. Alors, quel est l'intérêt de partager ces lectures ? Premier intérêt, c'est leur diversité. En fait, tous ces écrits-là, voilà, il y a peut-être trois grands genres, mais on a des formes et des formes discursives très différentes. On peut avoir des articles, mais on peut aussi avoir, parmi les lectures, des productions d'élèves, d'étudiants, enfin des écrits qu'on pourrait qualifier de scolaires, des textes plutôt professionnels, donc pas forcément publiés dans des dispositifs éditoriaux, mais partagés dans le monde professionnel. J'ai déjà parlé des références institutionnelles, alors on peut penser au programme et on peut penser aux documents d'accompagnement, et ça peut être de la prescription nationale, mais ça peut être aussi des prescriptions secondaires. Et puis, on a évoqué les albums de jeunesse. On peut avoir tant et tant d'autres types de lectures à partager. Alors, ce partage, à la fois, il paraît, d'après les discours des acteurs qu'on a rencontrés, tout à fait utile, certainement nécessaire pour qu'il y ait vraiment un partage. Alors, par contre, suffisant, ben, certainement pas. Il ne suffit pas qu'on lise les mêmes textes pour que la collaboration se fasse et qu'on puisse ensuite écrire ensemble, s'intercomprendre. Il n'y a rien de magique là-dedans. Ce sont des lectures vraiment de travail, hein, et pas du tout de survol. Par contre, voilà, il y a une nécessité pour que se construise une culture commune, que se fassent vraiment des rencontres avec, ben, par exemple, des usages lexicaux qui vont pouvoir se partager, s'emprunter, se développer ensemble, et donc des rencontres qui se font par les lectures interposées. Et ces lectures, alors, j'ai évoqué des controverses qui pouvaient naître des lectures, et dans ces controverses peuvent s'opérer des positionnements des acteurs. Et ces positionnements, ça ne va pas être « voilà, ça vient de mon monde et je le mets à votre disposition, voilà comment il faut les aborder », mais plutôt « ah ben alors, toi, tu m'apportes ce texte-là et voilà moi comment je le reçois, voilà comment je le lis, ce passage-là, je l'ai compris de telle ou telle manière ». Et donc, les acteurs peuvent se positionner autour des lectures, mais chacun se positionne depuis son propre arrière-plan, à chacun son métier, quoi. Voilà, et c'est peut-être là un gros enjeu de l'horizontalité qui semble nécessaire entre les acteurs d'une recherche collaborative. Alors, le fonctionnement, enfin, quelle est la fonction de ces lectures-là? Sans doute, elles soutiennent la réflexion de chacun et la réflexion commune, c'est-à-dire que quand je sais comment toi tu lis tel texte et qu'on peut se positionner l'un par rapport à l'autre à distance ou à plus grande ou à proximité de ce texte, eh bien, je comprends mieux comment toi, tu abordes la question. Donc voilà, soutenir la réflexion commune. Elle peut permettre aussi, du coup, de guider l'action de recherche. S'il y a une description, un récit d'enquête dans dans telle ou telle lecture commune ou un récit d'expérience ou des questions simplement. Peut-être qu'on peut prendre appui sur ces questions qui ont déjà été posées dans d'autres contextes et puis les amener dans notre contexte commun. Donc, ça peut guider l'action de recherche. Et puis, ben, ces lectures, du coup, si elles guident notre action, elles vont pouvoir cadrer nos activités de production. Donc, deux éléments que j'ai envie de retenir. Il me semble que l'intérêt de ce partage de lecture, c'est qu'elles servent à la fois de vecteur et de soutien à la collaboration et au développement de tous les acteurs. C'est-à-dire que on dit souvent que la recherche collaborative permet le développement des enseignants, mais le chercheur qui partage ses lectures et qui partage des lectures avec des collègues, ben lui aussi développe sa connaissance puisqu'il voit comment sont lus tels ou tels écrits. Et deuxième point, ça nourrit non seulement les partages, mais ça peut alimenter nos productions communes. C'est une affaire de discours, hein, toute cette histoire-là. On peut passer à la diapositive suivante pour entrer dans la deuxième partie sur voilà, lire ensemble, c'est une chose, écrire ensemble, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Enfin, qu'est-ce qu'on en a dit tous ensemble à Chicoutimi, puis qui a été poursuivi lors du séminaire de rentrée en octobre à Lyon. Alors, écrire ensemble, deux questions. Est-ce qu'on écrit pour nos recherches ou sur nos recherches, pour et sur ? Il y a quand même deux éléments. On peut écrire entre soi, consigner des écrits, et puis ensuite, on peut écrire à propos de nos recherches, et cette fois-ci à destination d'un lectorat. Donc là, à chaque fois, c'est important de savoir ce qu'on fait, comment on utilise nos lectures pour écrire. Alors, on avait eu dans la semaine une présentation de la revue hybride de l'éducation par Marie-Pierre Baron, qui en dirige la publication. Et Marie-Pierre expliquait qu'il y avait un fort enjeu dans cette revue de recherche dédiée à la recherche collaborative, revue québécoise, un fort enjeu de transfert des connaissances issues de la recherche dans les mondes de l'éducation et de la formation. Autre enjeu, celui de réduire les écarts entre des connaissances qui se produisent dans un monde un peu, parfois un peu fermé du monde scientifique et universitaire, et puis leur mise en œuvre dans les pratiques. Ça, c'est ce qu'on vit dans nos Léas. Hein. On voit bien à quel point l'expérimentation dans les classes, dans les associations, dans les lieux d'éducation, accélère la manipulation, la circulation des écrits qui se publient et des connaissances qui se construisent en recherche. Troisième fort enjeu, c'est l'accompagnement de lecteurs dans une ère où l'information est plus que disponible. Et donc, cette revue-là permet de canaliser et d'aider l'accès à une littérature qui est de plus en plus vaste. Et puis, elle avait mis l'accent, Marie-Pierre, sur le lectorat. Et elle disait, ben voilà, dans la revue hybride, on a trois grands formats de publication et ça permet d'éclater le lectorat. C'est-à-dire que ceux qui écrivent, donc qui sont des acteurs de mondes divers, s'adressent également en même temps à un lectorat pluriel. Et ça, c'est un élément qui est très important quand on passe à l'écriture, je vais y revenir. Alors, les trois formats de publication dans cette revue, il y a un format qui s'appelle milieu de recherche, c'est-à-dire que l'idée, c'est de présenter des recherches qui sont en cours, et dans cette partie-là, on a à la fois des chercheurs qui publient et des professionnels de l'enseignement, de la formation, avec de la co-rédaction qui se fait, mais par étapes successives. La deuxième catégorie, elle concerne les professionnels uniquement. Bon, il y a une parenthèse qui est assez ouverte, mais on la fermera dans la version qu'on vous partagera. Et cette fois-ci, où les acteurs peuvent apporter des témoignages, des retours de pratique. Et puis la place à la relève, ce sont des étudiants dans des cycles supérieurs qui, qui assurent la relève et à qui on ouvre une place pour publier. Donc là, il y a plusieurs enjeux. On a effectivement du transfert de connaissances, du lectorat éclaté, mais on a aussi une ouverture d'espace pour publier des auteurs qui n'ont pas forcément facilité à publier leurs travaux. Donc sur ce écrire ensemble, je pense qu'il est important de repérer qu'on peut écrire pour différentes raisons ensemble. D'abord pour formaliser les pensées, parce que certains d'entre nous ont l'habitude de rédiger dans la pratique ordinaire de leur métier, d'autres moins. Nous manipulons tous l'écrit, mais parmi nous, certaines personnes rédigent moins. Les enseignants, sauf à rédiger des projets spécifiques, mais dans l'ordinaire de leur activité, manipulent beaucoup l'écrit. Mais lorsqu'ils rédigent, c'est souvent pour eux-mêmes et sans prise en compte d'un lecteur. Donc là, dans nos recherches, il y a une pratique d'écriture qui se modifie. Donc formaliser nos pensées communes et puis soutenir le développement de chacun, j'en ai déjà parlé, hein, de tous les acteurs. Et deuxième point, ça nous amène à verbaliser, mais pas seulement, parce qu'on verbalise beaucoup dans nos rencontres, dans nos réunions, mais là, il s'agit aussi de mettre en texte, puis de réviser, et les révisions peuvent se faire en fonction de tel ou tel lectorat. Et voyez bien que nos recherches collaboratives dans les LEA, elles peuvent s'inscrire dans un des trois formats que propose la revue hybride de l'éducation. On va passer à la diapo suivante. Pour terminer, alors voilà, écrire ensemble, soit pour, soit sur nos recherches, sans doute pas les deux en même temps, mais alors comment est-ce qu'on s'y prend? Alors là, il y a différentes techniques en fonction des équipes, en fonction des moments aussi d'écriture. Écrire ensemble, c'est dans certaines équipes, et je pense notamment aux deux LEA dans lesquelles je suis impliquée particulièrement en Lorraine, on a tendance à rédiger de manière vraiment collégiale. C'est-à-dire que, par exemple, durant le confinement, on débutait nos publications dans les Atras écrites. Et on a mis en place des ateliers qui étaient donc à distance, mais qui étaient synchrones. On était en visio ensemble. Et puis, ensemble, on faisait des ateliers d'écriture qui nous permettaient de construire des écrits ensemble. Alors, au départ, c'était simplement pour formaliser des éléments, des ressources qu'on avait produites autour de la trace écrite, pour mieux voir si on arrivait à la penser ensemble. Alors, on a débuté un abécédaire qui attend encore d'être développé, puis publié. Mais dans ces éléments, on avait établi un cadrage, une sorte de plan. C'était dit, chaque trace écrite qu'on a étudiée, il peut être intéressant d'abord de la définir en tant que trace, ensuite d'expliquer comment elle se met en œuvre, et puis ensuite de faire des liens avec d'autres types de traces que nous allons définir. Donc, on avait pensé ça, on a appelé ça un abécédaire parce qu'on avait pensé ça un peu comme une notice de dictionnaire et on s'était inspiré d'ailleurs de différents types de dictionnaires. Et avec cette structuration, définition un peu théorique d'abord, puis définition dans notre Léa, ensuite retour d'expérience, puis lien avec nos différentes autres traces, tout le monde pouvait trouver sa place. C'est-à-dire que la définition théorique, c'est le travail de la chercheuse. La définition par rapport à nos préoccupations dans notre Léa, là, on pouvait tous y intervenir. Donc, il y avait un appel aux volontaires. Et puis ensuite, le retour d'expérience, eh bien, certains enseignants avaient expérimenté certaines traces écrites, puis d'autres avaient investi d'autres traces. Donc, selon l'entrée de notre petit dictionnaire, là, de notre abécédaire, des personnes disaient, ben, moi, voilà, moi, c'est moi qui ai amené cette forme-là de trace, je veux bien faire un retour. Et finalement, le lien avec les autres traces que nous avions travaillées pouvait se retravailler de manière collective quand on organisait des réunions un peu de révision de ce qui s'était fait. Donc là, on avait une manière de co-élaborer des écrits et ça résolvait le problème du partage de code qui était a priori non partagé. Écrire un article de recherche, bah, ça, c'est le domaine du chercheur ou de la chercheuse. Écrire un retour d'expérience dans une classe de cours moyen ou de collège ou de lycée, ben ça, le chercheur, la chercheuse ne peuvent pas le faire. C'est l'enseignant qui peut le faire. Donc, à chacun son métier. Et du coup, on a produit des formes qui permettaient à chacun d'avoir sa place tout en pensant à l'ensemble. Comment ça, ça s'est nourri? Ben, ça s'est nourri avec différents écrits que j'ai listés là, dans le cercle jaune là, à côté. Ça peut être des carnets de bord, des prises de notes. On a pu retrouver des éléments dans nos comptes rendus de réunion, dans des dossiers partagés au fur et à mesure de nos expérimentations, de nos lectures. Vous voyez, ça peut s'alimenter aussi avec différents écrits intermédiaires qui avaient été produits. Donc, ça, c'était une manière de s'y prendre. Cette méthode-là, elle a été aussi induite parce qu'on était à distance et qu'il a fallu trouver des combines. Mais depuis, j'ai proposé ça dans le Léa lycée professionnel. Et là, on n'est pas obligatoirement à distance. Mais il s'est produit une nouvelle méthode. On se met d'accord sur est-ce qu'on se lance quand on a des appels, des propositions de publication. Se lance-t-on ou pas? Il y a maintenant systématiquement cette discussion-là. Elle avait déjà lieu dans le Léa Trace écrite. Et puis, une fois qu'on est d'accord, mais qu'est-ce qu'on va y mettre? Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? On brasse des idées. Et puis, à ce moment-là, un plan peut se dessiner. Et dès que le plan est fait, ça c'est dans une réunion directe. Ça peut se faire de manière distancielle, mais ça peut se faire en réunion. Et puis, alors, qui prend quoi? Et on se donne une taille de texte à produire. Ah, une demi-page, trois quarts de page, on ne s'exprime pas en signe, mais plutôt en espace dans une page. Et du coup, dans le Léa professionnel, assez souvent, on fait ensemble le plan, et puis en asynchrone, chacun rédige son texte, on se donne une date de rendez-vous, on se programme un courriel une semaine avant la date dite, voilà, ça nous aide à nous organiser. Et lors de la réunion qui a été fixée communément, eh bien, on ne fait que de la révision. Ça ne fonctionne pas si mal. Et en fait, la règle, c'est que chacun intervient depuis son métier. À chacun son métier, ça, c'est quelque chose qu'on se répète souvent. Alors, on avait eu d'autres méthodes qui avaient été présentées en septembre, là, lors de notre voyage d'études à Chicoutimi. Et on avait Laurent qui avait témoigné pour le Léa Feder et qui disait, bah nous, en fait, les scientifiques, les chercheurs, ont rédigé un texte et ensuite, ils le soumettent à la critique des acteurs. Alors bon, ça, c'est une autre approche à la critique des acteurs de l'éducation, de l'enseignement, puis de la formation, qui disent s'ils s'y retrouvent, s'ils ont quelque chose à ajouter. Personnellement, ce n'est pas une méthode que j'ai employée, mais ça serait intéressant qu'on en discute. En fait, tout ça dépend de là où on va publier. Si on publie dans une revue à comité de lecture, une revue plutôt réputée à caractère scientifique, je vois bien pourquoi les chercheurs veulent d'abord écrire le texte, puis ensuite le soumettre. Mais voyez que ça donne à chacun un rôle de validation de l'autre, et la division des mondes reste telle qu'elle aurait pu être hors recherche collaborative. Donc, je me demande si du coup on écrit vraiment ensemble à ce moment-là. On assume ensemble, mais est-ce qu'on rédige ensemble? Est-ce qu'on écrit ensemble? Ça, c'est une question. En tout cas, il y a des obstacles qui sont identifiés. C'est trouver le temps, j'ai évoqué des petites techniques d'organisation du temps. Ça, c'est sûr que ça demande des stratégies. Et ça pose la question de la légitimité. Alors, en début de Léa, c'est très difficile pour chacun de se lancer. Le chercheur peut avoir peur ou la chercheuse peut avoir peur de jargonner. Autre technique qui a été abordée, c'était justement pour faciliter l'accès à l'écriture et la gestion du temps. C'est appliqué dans la revue Diversité, dans les cahiers pédagogiques, et ça avait été évoqué à propos du dossier éducation et didactique, là, le dossier thématique sur le Léa Iffé, c'était de passer par de la transcription d'entretien. Donc, entretien d'enseignants, entretien de chercheurs, et ce sont les équipes éditoriales. Cette question du écrire ensemble, ben, c'est une question qu'on a eu envie de poser dans la revue naissante Partage, dont on vous diffusera l'appel par la suite. On passe à la vignette de conclusion. En fait, ce qui se joue, c'est surtout l'alternance entre lecture et écriture. Alors, les lectures, on en a parlé, l'écriture également. L'idée, c'est qu'il y a déjà un fort enjeu de documentation. On peut parler de secondariser, je ne vais pas lire tous les items, mais l'idée, c'est qu'il y a vraiment une documentation qui est réciproque, c'est-à-dire que en partageant nos lectures, on se documente les uns les autres. Mais en plus, ça soutient la collaboration, non seulement par l'intercompréhension, mais aussi par l'idée qu'il y a un partage de discours. Partageant nos lectures, on va partager des concepts, on va partager des manières de faire, de penser, d'agir. Et tout ça va permettre d'accumuler différentes traces d'énonciation et, moyennant différentes archives plus ou moins provisoires ou plus ou moins finalisées, on va construire un discours commun. Et à partir de ça, on va pouvoir inscrire ça dans une dynamique plus ouverte qui va aller vers l'extérieur. Et il me semble qu'il y a un cheminement qui a déjà été décrit par Mingnaud, qui va de la conservation. Chacun d'entre nous individuellement peut conserver des écrits, des pensées, des lectures, puis les réactiver en réunion en les partageant avec les autres, les faire circuler dans l'équipe et ensuite au-delà de l'équipe dans des publications. Et selon le lectorat auquel on s'adresse, eh bien, chacun va être plus ou moins expert pour la rédaction, pour le choix des formulations. Et donc, pour mettre en circulation de manière un peu ordonnée et stratégique les discours qu'on produit, d'où les trois mots-clés que je propose de retenir, formaliser, collaborer et puis publier. Voilà, désolée pour la coupure, je ne sais pas du tout à quel moment ça s'est produit. Je suis un peu désorientée.
Non, c'est parfait. Merci beaucoup, Aurore.